Tapis rouge sur RDC, découvrez le tissu associatif et culturel local, vos chanteurs ou artistes locaux, mais aussi les entreprises de nos régions.
Messieurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radiodiffusion Charentaise. Nous sommes le samedi 26 octobre 2019, c'est Yann et nous sommes ensemble pour nos tapis rouges exceptionnels, nos tapis rouges du samedi après-midi. Et cet après-midi, on avait envie de parler avec vous d'éthiopathie pour nous parler de cette science. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Baptiste Toin. Bonjour Baptiste.
Bonjour Yann.
Alors Baptiste, vous êtes avec nous cet après-midi pour nous parler de votre activité professionnelle. L'éthiopathie. Vous êtes avec nous pour nous parler de cette discipline, cette médecine manipulative, si on peut dire. On va voir ensemble ce que c'est, sa définition, quelles en sont ses origines. Et puis on parlera aussi un petit peu de comment se passe une séance d'éthiopathie. Avec nous, pour présenter cette émission cet après-midi, on en parlait déjà ce matin, il y a aussi le jeune Samuel. Samuel, ça va toujours ? Va falloir parler devant le micro, Samuel.
Oui, oui.
Voilà, c'est mieux. Donc Samuel, ton stage parmi nous, comment ça se passe? Ça va? T'as pu découvrir des choses ce matin?
Oui, oui, ça se passe très bien, oui.
Tu as fait quoi? T'as participé aux dédicaces? Il y avait du monde?
Oui, ça a beaucoup appelé, oui.
C'est-à-dire, vous avez tourné de 9h jusqu'à midi, c'est ça hein?
Oui, c'est ça.
Non-stop, que des dédicaces.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez explosé le standard. Allez, tout de suite, on débute notre émission. Baptiste, la parole va être à toi, va être donnée. Est-ce que tu veux nous dire en quelques mots ce qu'est l'éthiopathie?
Eh bien, oui, l'éthiopathie, donc, c'est une thérapie manuelle de soins. Sa définition propre, l'étymologie, ça veut dire éthio, c'est du grec aitia, qui veut dire la cause, et pathos, pathie, la souffrance, donc ce qui veut résumer d'aller à la cause de la pathologie.
C'est une technique qui s'inscrit un petit peu dans la tradition des rebouteux, un petit peu comme l'ostéopathie ou la chiropraxie?
Exactement, dans le sens où nous on se dit héritiers de rebouteux de par les manipulations. C'est-à-dire qu'on ne les a pas inventées, elles sont semblables à certaines d'autres disciplines telles que l'ostéopathie ou la chiropraxie. En soi, c'est pareil dans le sens où c'est une thérapie manuelle. Après, nous, notre but, c'est d'expliquer ces manipulations pour essayer d'aller à l'essentiel. Le but, c'est de faire le moins de choses possible, mais au bon endroit, de faire que ce qui est nécessaire. C'est pour ça, éthio la cause, on va droit au but.
D'accord. Et justement, il y a une grosse différence, une grosse distinction à faire entre l'ostéopathie et l'éthiopathie. Tu veux nous repréciser tout ça?
Eh bien, effectivement, donc elle se fait surtout dans cette méthode de réflexion, d'analyse. C'est-à-dire que l'ostéopathie, aujourd'hui, on peut parler des ostéopathies, parce qu'il y a beaucoup de courants de pensée différents. Ils ont eu jusqu'à plus de 77 écoles rien qu'en France, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, d'un ostéopathe à un autre, on peut presque dire qu'ils font presque pas le même métier. Ce qui reste courant, c'est le côté manuel, comme la chiropraxie. Et donc, nous, notre but d'un éthiopathe à un autre, c'est la même chose. Vous pouvez aller voir un confrère à Lyon, à Paris ou en Bretagne, s'il fera la même chose que moi. Donc il y a une éthiopathie par rapport à des ostéopathies. Et après, les manipulations peuvent être semblables, mais notre but vraiment, c'est dans la réflexion. Ce qui fait que quand je vois mon patient, mon but à moi, c'est pour un problème de faire une manipulation. Le but, c'est d'aller vraiment là où il y a besoin.
À l'essentiel.
Et pas de faire tout de la tête aux pieds. Si tu viens me voir pour un genou, eh ben, je vais pas regarder tes côtes, tes cervicales ou l'oreille gauche, quoi. Il faut que ça reste logique et cohérent.
D'accord. Et c'est le patient qui arrive chez toi avec une demande spécifique ou c'est par rapport à un questionnaire ou un truc comme ça que vous allez détecter les causes probables?
Eh ben, quand le patient vient, effectivement, il faut qu'il ait un problème. Donc, en ce sens, on ne fait pas de prévention. D'accord ? Il faut qu'il ait un souci, une douleur, puisque notre but, c'est de rechercher la cause de la douleur. Donc, s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de cause. Et c'est par l'anamnèse, c'est dans le questionnaire, l'interrogatoire, qui va nous permettre déjà de remonter de fil en aiguille une suite logique, c'est une suite éthiopathique. Et en ce sens où quand moi je me lève de mon bureau, je sais déjà où je vais aller, et ensuite mes mains ne font que confirmer ou infirmer un diagnostic préétabli. Mais
ça reviendra.
Par rapport aux patients, si vous voulez, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Pour revenir par rapport aux mains, notre but c'est d'intellectualiser un maximum ce qu'on fait avec les mains. C'est pour ça que quand on se dit héritier des rebouteux, ce qu'on a gardé c'est le côté mécanique des manipulations. Donc on a enlevé tout ce qui est un peu mystique, tout ce qui est énergétique. On a essayé d'être le plus cartésien possible parce qu'on peut expliquer nos manipulations. Pourquoi on les fait et pourquoi on les fait dans ce sens-là.
D'accord. Et en fait, ça, ces explications aident aussi, j'imagine, à déclencher le processus de guérison dans la tête du patient. Finalement, quand tu lui expliques pourquoi je brasse comme ça, pourquoi je tourne comme ça, pourquoi...
Oui, ça, on peut dire que ça a un côté placebo, comme le médecin, lorsqu'il va vous dire le nom de la pathologie, il ne va pas forcément vous traiter, mais déjà, quand on met un nom sur quelque chose, on va déjà un peu mieux. Mais ça, ce n'est pas le but. Ça, c'est, le placebo, c'est 20%. Du résultat, donc c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on est en train de lancer des études randomisées pour essayer d'évaluer justement la différence qu'on a entre un traitement avec du résultat que du placebo et lorsqu'on a un vrai résultat au-dessus. Et c'est pour ça que nous, on est la cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui sont déçus. Déçus de la médecine classique, déçus de la chirurgie, déçus des ostéos, des kinés. Donc il faut qu'on réussisse à rebondir et à être bon, en tout cas là où les autres l'ont pas été. Ou en tout cas, si c'est pas pour nous, d'être honnête et de rediriger. Mais déjà, rien qu'en expliquant, déjà on fait une petite différence. Et après, si en plus on a du résultat sur la manipulation, bon bah c'est jackpot.
C'est ça, j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Avant d'aller un petit peu plus loin dans la discipline en elle-même, j'aimerais bien qu'on revienne sur son histoire, sur ses origines, parce que je crois savoir que c'est pas très vieux finalement l'éthiopathie, c'est pas reconnu depuis très longtemps.
Alors c'est toujours pas reconnu hein, par les instances officielles. Après les organismes sociaux, eux nous reconnaissent en tant que thérapie manuelle de soins, mais aux yeux de l'État et du ministère de la Santé, ils nous connaissent. Ils savent qu'on existe, mais ils nous prennent pas en compte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre recherche, notre but, c'est d'aller vers une reconnaissance. Et pour ça, il faut faire des évaluations. Donc, pour revenir à l'histoire, ça fait une soixantaine d'années, tout de même, que ça existe, depuis exactement 1963.
Ouais.
Donc, c'est français de base. C'est Christian Trédaniel, le fondateur, décédé en 2011. Et donc aujourd'hui, même si ça fait 60 ans que ça existe, ça reste récent pour une médecine, puisque c'est pour ça qu'on n'a pas encore fait d'études nous permettant d'aller vers ce processus de reconnaissance. Mais petit à petit, on y arrive, on avance. Et
les travaux du docteur Trédaniel, j'imagine que tu as pu étudier un petit peu, lui, il s'était inspiré de ce qui s'était déjà passé avant.
Alors,
d'autres disciplines peut-être ou...
Alors, il a été, effectivement, lui, il a été formé en chiropraxie et en ostéopathie, mais ce qui fait qu'aucune de ces disciplines n'arrivait à avoir un raisonnement qui expliquait l'efficacité des techniques manuelles. Aucun n'avait vraiment une vraie méthode de réflexion et de logique cohérente. Donc, au bout d'un moment, quand l'ostéopathie a explosé de par tous les courants qui est arrivé, il a été déçu du manque de raisonnement, et notamment en Suisse, où le seul collège qui était de formation des ostéopathes pour les Français, c'était le collège d'ostéopathie européen. Et dans les années 70, ils se sont tous appelés le collège d'éthiopathie européen. Donc pendant un an, tous les ostéopathes étaient des éthiopathes, on peut le dire. Mais comme l'ostéopathie a été après reconnue, et ben, beaucoup sont partis de ce côté-là. Et Trédaniel, lui, a voulu rester dans une fibre de recherche et de logique, et notamment en créant des facultés qui sont à but non lucratif, ce qui est une chose importante, puisque... Beaucoup de mauvaises personnes ont voulu faire beaucoup d'argent sur ce dos, ce qui fait qu'aujourd'hui, le nombre d'écoles a tellement explosé en ostéopathie qu'ils en forment énormément, beaucoup trop. Ils ont saturé leur marché à cause de certains directeurs qui ont voulu avoir un peu trop...
Ouais, gagner, faire de l'argent en fait sur le dos.
Ce qui est dommage.
C'est oui, c'est tout à fait dommage. Donc pour pouvoir devenir éthiopathe, il y a un gros cursus de formation. Tu veux nous parler de celui-ci, puisque j'imagine que tu as dû emprunter cette voie-là.
Ah oui. Eh ben donc il y a 4 facultés en France, Paris, Rennes, Toulouse et Lyon, et qui ont une formation homogène, uniformisée, puisque nous avons sur 6 années d'études des certificats oraux qui se passent à Paris. Donc les 4 facs se retrouvent à Paris devant un jury composé de professeurs de différentes facs, ce qui rend vraiment homogène le cursus. Et durant ces 6 années, il y a 3 grands axes, 3 grands piliers qui nous permettent d'avoir cette analyse. C'est d'abord l'anatomie. On a un gros... beaucoup d'heures d'études sur l'anatomie, puisque c'est la structure, c'est ce qui nous permet de voir comment c'est fait. Ensuite, le deuxième pôle, c'est vraiment la physiologie, comment ça marche, la fonction, pour ensuite pouvoir expliquer la pathologie, pourquoi ça dysfonctionne, quoi. Donc autour de ça, il y a de la biologie, de l'histologie, des cours de clinique, de diagnostic éthiopathique. Et donc c'est très long, c'est 6 ans, c'est très dur. Il y en a qui triplent la 5e année. On n'a pas de concours d'entrée, mais la sélection se fait sur le long terme. Au cours des 6 années, on a beaucoup d'effectifs qui arrêtent ou qui partent. Et en plus de ça, c'est très cher, puisque nous payons les formateurs qui ne sont pas éthiopathes, puisqu'on a des médecins qui viennent, des radiologues qui viennent. Nous allons faire des stages de dissection dans des unités de recherche médicale sur Paris. Donc tout ça, c'est des choses qui coûtent. Et en plus de payer la fac, même si elle est à but non lucratif, il y a quand même...
Et pourquoi justement ces facultés se sont organisées sous statut d'association ?
Ben justement, pour faire la différence avec les écoles d'ostéopathie qui vendaient des VHS à qui voulait pour manipuler, enfin qui justement faire cette différence-là importante pour dire que nous, notre but, à chaque fois quand on regarde les manuels, les atlas de techniques, qu'on regarde tous les livres qui ont été faits en éthiopathie, à chaque fois, l'auteur remercie les personnes qui ont eu... un désintérêt, c'est-à-dire pour la réalisation de cet ouvrage, que nous n'avons pas cherché d'intérêt.
Oui, apprendre à se faire. Ouais, d'accord, on peut comprendre, à se mettre en lumière, eux, avant de ce qu'il y a dans le contenu du bouquin. Donc, cette formation longue, j'ai 6 ans, pourquoi alors ça, c'est peut-être plus personnel, mais pourquoi tu t'es dirigé vers cette activité-là et pas des études de médecine classique, entre parenthèses, classique?
Eh bien, tout simplement parce que le côté concours, je voulais même pas m'y essayer. C'était une ambiance, c'est toujours en tout cas une ambiance assez particulière et parfois désagréable. Après, moi au début, je savais que je voulais être dans le soin. Je pensais faire audioprothésiste ou orthoptiste. Mais même avant de faire le concours pour ces formations-là, je savais déjà que je voulais être en éthiopathie parce qu'au final... le fait de pouvoir soigner rien qu'avec les mains, sans outils électroniques ou chimiques, ça m'a paru tellement fou. Et en même temps, quand on réfléchit, c'est très logique, très cohérent. Mais ce qui est bien, c'est que c'est de la tête aux pieds. Alors que dans les autres professions paramédicales, elles sont quand même très axées sur un seul organe, les oreilles, la vue. Puis des fois, il y a un côté un peu commercial où on vend un appareil, on explique comment le mettre, on explique comment le régler, mais au final... est-ce qu'on amène vraiment du soin? On pallie à un problème, ça c'est sûr, mais on ne va pas vraiment forcément au bout. Et donc là, ça va de la tête aux pieds, et ça va du bambin au senior. Mon plus jeune patient, il avait 3 semaines, et ma plus vieille, elle avait 102. Enfin, là toujours. Donc ça c'est...
D'accord. Et au-delà de ça, c'est surtout, j'imagine, l'envie d'apporter son aide, d'apporter son aide, d'apporter un soin aux autres.
Oui, et puis en plus, ce qui m'a plu dans ce métier, c'est que c'est un métier en devenir, donc à défendre. Ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Et en plus, c'est très gratifiant, parce qu'effectivement, comme on est la 5e roue du carrosse et que les personnes qui viennent nous voir sont des personnes déçues, eh ben, quand on réussit là où les autres n'ont pas réussi, bah, c'est toujours très très gratifiant. Et...
Les personnes que tu nommes comme déçues, c'est des personnes qui ont été déçues par la médecine traditionnelle, qui n'ont pas réussi à arriver au bout d'un traitement
Peu importe, disons qu'à partir du moment où c'est chronique ou à répétition, ça nous intéresse. Je ne dis pas qu'on peut forcément quelque chose, moi je ne fais pas de promesses, hein. Je ne fais pas de fausses promesses, je dis aux patients que ça nous intéresse parce que ça veut dire que c'est un échec de tout ce qui a été tenté ultérieurement. Et après, je l'écoute, je lui explique, je lui soumets ma théorie, mes hypothèses, soit la personne elle accepte ou pas, et puis après, on y va, mais on sait très vite si on a du résultat ou pas. Et moi, je ne m'acharne pas pour rien. Donc c'est ça qui est intéressant, puis c'est une forme d'honnêteté au final. Donc si vous écoutez votre patient, ce qui est déjà ce que font pas forcément tous les thérapeutes, si en plus vous leur expliquez et que vous avez du résultat, ben voilà.
C'est tout gagné. Voilà. C'est tout gagné. Et est-ce que ça déclenche des vocations, le fait qu'un patient vienne vous voir et qu'il vous voie manipuler, ou est-ce qu'il se dit, ben, moi aussi peut-être que je pourrais apprendre?
Oui. On a souvent des stagiaires, alors des fois des jeunes stagiaires qui sont collégiens et qui ont encore le temps. Moi, je leur dis à chaque fois, ouvre-toi, va voir ailleurs, parce que si tu compares avec d'autres choses, eh ben, ça va confirmer ton envie. Il n'y a pas besoin d'avoir un don particulier. Ce qu'il faut, c'est que être motivé, puisque même si c'est très long et très dur, et ben au final, quand on est motivé et que ça plaît, ça devient plus facile. Et donc on a pas mal d'étudiants qui viennent chaque année. Environ, nous, on a des petites promotions. C'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est des facultés où c'est assez. Il y a un rapprochement, une proximité. C'est assez convivial, donc c'est ce qui rend les études moins lourdes. Mais ça intéresse beaucoup.
D'accord. Samuel, est-ce que tu avais des questions pour Baptiste? Quelque chose que tu aurais voulu savoir? Quelque chose que tu n'as pas saisi dans les explications que l'on a données jusqu'à présent?
Non, pour l'instant, ça va.
T'as pas envie de poser de questions, quoi. Je vous propose, messieurs, dames, de marquer tout de suite une petite pause musicale. Une petite pause musicale avec Jennifer. Alors, je sais pas si certains d'entre vous apprécient l'artiste. Nous verrons bien. Jennifer, sur le titre Attention, douleur fraîche. Et juste après, eh bien, c'est Henri Salvador que nous écouterons sur la maladie d'amour. Mesdames, messieurs, excellent après-midi à toutes et tous. Restez bien parmi nous au 93.4 et au 92.5 sur la bande FM. On se retrouve bien sûr juste après ça, toujours dans la joie, le partage et la bienveillance, avec Baptiste Toin qui nous présente aujourd'hui son activité, l'éthiopathie. A tout à l'heure.
La petite douleur s'invite à nos éclats de rire, elle nous laisse des morceaux de cœur sur le carreau des souvenirs. Elle connaît sur le bout de ma langueur mes histoires belles d'amour déçues, sous les rires, sommeil, les pleurs, ce n'est qu'une question de retenue. Attention, douleur fraîche, qu'est-ce qui s'oppose, qu'est-ce qui empêche? Belles histoires d'amour, c'est comme la peinture, ça nous fait toujours défaut. Attention, douleur fraîche, qu'est-ce qui s'oppose, qu'est-ce qui empêche? Toujours des mots, courue vite vers le lointain, là-bas où s'agite l'horizon, mais elle est revenue un matin, dans le silence de ma raison. Elle a pris son plus bel hiver, pour frapper doucement sous le lin, elle est parée à la lumière, ma blessure vive des matins. Qu'est-ce qui empêche? Mais les les histoires d'amour. C'est comme la peinture, ça nous fait toujours défaut. Attention, douleur fraîche. Qu'est-ce qui s'oppose, qu'est-ce qui empêche? Mais les histoires d'amour s'écrivent en rature, ça nous laisse toujours défaut.
RDC, votre radio, 93.4 et 92.5 pour la région de Saintes.
Découvrez votre tissu associatif et culturel local sur RDC.
Dans le studio angoumoisin de Radiodiffusion Charentaise. Merci à vous d'être avec nous sur les ondes de votre radio associative locale. Cet après-midi, on parle d'éthiopathie, une discipline qui s'adresse à chacun d'entre nous, du nourrisson au senior, de la femme enceinte au sportif. L'éthiopathie soigne manuellement de nombreuses pathologies qui affectent notre vie quotidienne, que ce soit les troubles articulaires ou digestifs, circulatoires ou respiratoires, gynécologiques ou généraux. Pour nous en parler cet après-midi, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir avec nous en studio Baptiste Toin. Ça va toujours ?
Ça va.
Alors Baptiste, justement, puisque l'on parle des pathologies que l'éthiopathie peut soigner, tu veux nous parler de celle-ci, des troubles et maux qu'on peut venir se faire soigner chez toi ?
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que on ne permet pas de se substituer à la médecine classique. Nous, on est complémentaires, surtout quand finalement il y a une récidive, quand il y a une chronicité. Parfois nous pouvons prendre en charge les cas aigus de certaines personnes, notamment dans des cas de lumbago ou de torticolis, où là c'est des prises en charge qui doivent être rapides, puisque le résultat sera plus rapide, plus c'est ancien et plus ça met un peu de temps. Mais quand c'est des infections par exemple aiguës, là on ne peut pas se substituer aux médicaments.
À la chimie.
Par contre, lorsque l'infection, par exemple, récidive, là, ça peut nous intéresser. Par exemple, si on prend le cas des brûlures d'estomac, de la gastrite, des aigreurs d'estomac, il y a une thèse en médecine où il a été démontré qu'il y a une bactérie qui s'appelle l'Helicobacter pylori, c'est son nom, était en très très grande quantité chez les personnes qui avaient une gastrite. Donc ils ont fait une culture de cette bactérie-là, ils en ont bu un grain, plein verre, et hop, ça leur a donné des aigreurs d'estomac. Donc CQFD, la bactérie donne les gastrites. Donc effectivement, si le patient prend un antibiotique et que ça va mieux, tant mieux. Mais si ça récidive au bout de 15 jours, qu'il est obligé de reprendre un antibiotique, et au bout de 15 jours reprendre un antibiotique, là ça nous intéresse. Ça veut dire que c'est pas la bactérie qui est en cause, mais peut-être son environnement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une faiblesse, si on veut, qui fait qu'elle peut proliférer. Et c'est là où il faut réétudier sa physiologie. Alors c'est un des exemples, hein. Il y a plusieurs possibilités. Mais dans une gastrite, il faut savoir que l'estomac, dans sa physiologie, reçoit un bol alimentaire qui a été prédigéré chimiquement par la salive. Et donc si on admet en remontant qu'on a un trouble salivaire et qu'il n'y a pas cette prédigestion chimique, l'estomac doit bosser pour deux, et pour les glandes salivaires et pour lui. Et comment il le fait? En sécrétant deux fois plus d'acidité. Ce qui fait qu'on a un milieu très très acide dans lequel se plaît cette bactérie-là, qui est présente chez 40% de la population. Donc ce qui fait qu'on a ce développement bactériologique, mais qui est finalement dû à un trouble salivaire. Et finalement il suffit de remonter, en fait on a 5 questions à chaque fois à se poser, c'est pas compliqué, c'est les 5 mêmes, c'est pourquoi il a une acidité, parce qu'il y a une sursécrétion, pourquoi il y a une sursécrétion, parce qu'il y a une hypo au niveau salivaire, pourquoi les glandes elles fonctionnent pas suffisamment, parce qu'il y a une petite congestion, pourquoi il y a une petite congestion, comme ça qu'on remonte petit à petit et qu'on sait
la cause initiale.
Voilà.
D'accord.
Et c'est en réfléchissant que l'on sait si c'est pour nous ou pas, si c'est de notre sort ou pas. Parce que...
Ah, je veux dire, qu'au bout de ton, ce que tu veux dire, c'est qu'au bout de ton diagnostic, si tu te dis, je ne pourrais pas agir.
Ouais, si on connaît nos limites, on a un champ qui est limité, même si les troubles sont de la tête aux pieds et qui intéressent beaucoup d'organes différents, on sait si c'est de notre sort ou pas. S'il y a eu un traumatisme, s'il y a une atteinte de structure ou tout ce qui est dégénératif, par exemple, ça, on sait que c'est pas pour nous dès le début. Et c'est là où il faut poser les bonnes questions. C'est comme un Cluedo. Le patient arrive avec une énigme. Il faut aller chercher les indices, remonter et être sûr qu'on est au bon endroit. Et si jamais on n'a pas de résultat, On ne reporte pas la faute sur le patient. On ne peut pas dire que c'est la vieillesse, c'est la croissance, c'est dans sa tête, c'est le stress. Si on rejette la faute sur le patient, c'est une preuve d'incompétence. Donc c'est que soit on s'est trompé, on pensait que le diagnostic c'était ça et en fait c'est autre chose, soit on pensait que c'était pour nous alors que ça ne l'était pas, mais c'est notre faute à nous. On ne rejette pas la faute sur le patient.
D'accord, quand tu dis qu'on pensait que c'était pour nous, qu'on pouvait agir, c'est ça, que le praticien peut agir.
Si, par exemple, il y a une pathologie, c'est la maladie de Raynaud, ça se trouve au niveau des doigts, c'est les personnes qui ont les doigts blancs ivoires, notamment quand il fait froid. Et en fait, lorsque ça fait trop longtemps, lorsque ces personnes-là ont cette pathologie depuis plus d'une dizaine d'années, il y a une atteinte de structure au niveau des vaisseaux et là on bottera en touche. Là,
irréversible, on peut pas.
Là, à partir d'un certain stade, suivant les patients, faut pas faire de généralité, mais finalement on pensait que c'était pour nous et en fait ça ne l'était pas parce que c'est irréversible. Quoi.
Et du coup, la question me vient, est-ce qu'il t'arrive de tenter des choses ?
Alors, je tente pas parce que il n'y a pas de croyance. Quand je fais quelque chose, je ne crois pas en quelque chose parce que moi, j'en suis sûr. Donc, pour être sûr, parfois, on peut avoir besoin d'examens complémentaires. Mais il faut que ces examens-là soient complémentaires. Il faut que ça vienne complémenter une idée, une analyse clinique déjà présente. Il ne faut pas que ce soit un examen primaire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de radios ou d'IRM sont prescrites sans diagnostic au préalable. Ce qui fait que finalement, c'est l'image qui prime. Et sauf que s'il n'y a rien à l'image, il n'y a pas de diagnostic. C'est dans la tête, c'est bon. Et nous, on renvoie nos patients vers leur médecin pour des prescriptions, parce que nous, on ne prescrit rien du tout. Je n'ordonne rien, on ne fait pas d'ordonnance. Et donc, c'est au médecin après de bien évaluer. Et dans ce cas-là, c'est qu'on a un doute. Et si on a un doute, je ne fais pas.
D'accord. Voilà. C'est peut-être plus sage.
Ah parfois, le savoir-faire, c'est le non-faire.
Et justement, les relations avec les médecins généralistes, ou comment ça se passe ? Vous êtes en lien, vous êtes complémentaires ou c'est...
Ça dépend du généraliste. Ouais. Disons que y en a un qui m'envoie du monde, il y en a un autre qui me casse du sucre sur le dos. Donc c'est vraiment... ça dépend du généraliste. Nous, on ne cherche pas. Ce qui compte, c'est que le patient aille mieux. Après, grâce à qui, ça, finalement, c'est le résultat qui compte. Donc, moi, je ne me substitue pas aux médecins, j'ai besoin d'eux. Donc, les déserts médicaux, ça nous touche aussi. Et après, s'ils ne m'acceptent pas, c'est pas grave. Parce que,
j'irai ailleurs.
Non, c'est pas ça. C'est que si la médecine classique suffisait, on n'aurait pas à manger. Or, c'est pas le cas. Et moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas... Enfin, ces manipulations-là, elles sont ancestrales. Elles datent des rebouteux, mais même encore d'avant, de l'Antiquité. On les a expliqués, mais on les a pas inventés. Et on a toujours été...
Et justement, tu sais pourquoi ces savoirs se sont perdus au fil du temps ? C'est le manque de transmission de génération en génération, c'est l'arrivée justement de toutes ces nouvelles, de toutes ces nouvelles, c'est pas nouveau, mais de toutes ces médecines qui ont écrasé tout le reste ?
Disons que effectivement, avant les rebouteux, c'était une tradition de père en fils, c'était une tradition orale. Ils n'avaient pas forcément le savoir anatomique derrière. Et des fois, ils manipulaient une chèvre comme ils manipulaient un humain. Donc nous, on permet de nous adapter. On a une palette de manipulations différentes qui fait que je peux manipuler un bébé, un adolescent ou une petite mamie. Donc c'est pour ça que ça, c'est ce qui est important. Après, la médecine, elle a toujours pris une grande place. Et c'est normal, on va dire, mais il ne faut pas oublier que un des actes thérapeutiques qui sauve le plus de vies au monde, c'est le massage cardiaque. Le massage cardiaque, c'est un acte manuel, sans chimie.
C'est ça. Donc, parmi les différentes pathologies traitées par un éthiopathe, tu veux nous en citer quelques-unes ou peut-être nous donner quelques exemples ?
Oui, alors il y avait l'exemple de la gastrite d'un point de vue viscéral. En ce moment, on est en plein dans la période des sinusites, notamment. Donc ça, c'est des choses pareilles qui se soignent très très bien et assez rapidement. Après, il y a tout ce qui est musculo-squelettique, du type tendinite, toutes les douleurs articulaires, tout ce qui va être aussi d'un point de vue circulatoire, notamment. C'est assez vaste, mais c'est à l'éthiopathe de reconnaître ce qui est de son champ ou pas, et en fonction du patient aussi, quoi.
En fait, plus on parle, plus on échange. Je commence à comprendre le pourquoi des 6 années. Parce que j'imagine qu'il faut arriver avec certaines beaucoup de connaissances en anatomie. Il faut connaître le corps, quoi, le corps humain.
Ah bah, c'est sûr que si on veut avoir une réflexion bonne et une bonne analyse, effectivement, il faut le faire. Après, disons que dans les facultés. Ce qui est bien, c'est que les 6 ans nous permettent de bien appréhender tout. C'est pas très compliqué en soi, parce que c'est complexe dans le sens où il y a beaucoup de notions, beaucoup de vocabulaire, mais c'est pas compliqué dans le sens où c'est très logique au final. Donc après, les 6 années nous permettent plus tard déjà d'enseigner. Moi, je vais donner des cours à Rennes tous les mois, genre je fais la route de Sigogne jusqu'à Rennes pour enseigner, mais on peut aussi complémenter notre cursus avec des diplômes universitaires, notamment moi j'ai été à l'université de Paris-Descartes pour faire un DU d'anatomie clinique qui nous permet de complémenter et aussi d'avoir finalement un diplôme qui nous permet d'avoir une autre réflexion. Mais c'est du plus, quoi. Il y a beaucoup d'Éthiopathes qui n'ont pas ce DU là et qui réfléchissent très bien. Hein, donc.
Et on imagine que niveau formation, niveau acquisition de savoir, c'est pas fini. En fait, tu vas apprendre tout au long de ta vie.
Disons que ce qui est bien, c'est qu'on nous donne une méthode. Donc après, cette méthode, elle nous permet de réfléchir sur de nouveaux cas, de nouvelles questions qui peuvent amener tout au long de la vie du cabinet. Mais la base, c'est la réflexion, c'est la méthode. Donc c'est ça le plus important. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que la méthode éthiopathique, après, on peut l'utiliser. Nous, à la fac, on s'amusait à l'utiliser sur tout et n'importe quoi. On regardait les épisodes d'une série, on essayait de réfléchir là-dessus d'un point de vue systémique. Enfin, on peut s'amuser. Après, c'est vraiment une méthode qui est appliquée à une thérapie manuelle.
D'accord. Tac. Je voudrais bien maintenant que l'on parle, si tu le veux bien, de comment se déroule une consultation. Moi, je suis patient, je viens chez toi. Comment ça se passe?
Eh bien, donc je t'invite à rentrer. Et donc on fait une anamnèse qui permet à moi de savoir où je vais et donc pourquoi tu es là. Et c'est là le point essentiel, le plus important, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaye d'intellectualiser un maximum ce qu'on fait de nos mains. Donc c'est là où c'est le plus important, parce que si on veut être crédible, il faut être objectif. Et pour être objectif, il ne faut pas que ce soit que notre ressenti à nous, parce que notre ressenti, notre palpation, c'est subjectif. Mais si on l'ajoute au questionnaire, si on l'ajoute à différents tests, l'ensemble peut nous permettre d'objectiver la cause, quoi. Donc en premier lieu, c'est l'anamnèse, savoir si c'est pour moi ou pas. Ensuite, une fois que je sais que c'est pour moi, sinon je redirige le patient, il faut le rediriger, on ne le laisse pas dans le désert tout seul, dans le désert médical. Donc si c'est pour moi, ensuite c'est sur la table de manipulation que ça se situe, c'est notre deuxième outil finalement, puisque c'est des tables spécifiques aux éthiopathes, mais quand on sait s'adapter, on peut manipuler n'importe où, en soi. Quand on est en réunion de famille à la maison, on manipule n'importe où on peut. Et donc, c'est sur la table que va s'enchaîner les différents tests pour être sûr d'être au bon endroit, d'aller là où il faut. Et c'est pas forcément là où il y a le bobo que c'est forcément la cause. Parfois, il faut aller voir ailleurs, mais toujours de manière cohérente et logique. Il faut toujours qu'il y ait un lien anatomique et physiologique.
D'accord. Et pourquoi tu précises toujours? Parce que c'est le point essentiel, en fait.
C'est ce qui nous différencie de d'autres disciplines. Il y a certaines disciplines où... je ne dis pas que ça ne marche pas, mais par exemple, si on parle du crânien, le crânien en éthiopathie, on n'en fait pas. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas comment ça peut bouger et comment ça peut entraîner des pathologies. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais comme je ne le comprends pas, je ne le fais pas. Voilà, donc s'il n'y a pas de réflexion logique, c'est pas éthiopathique.
D'accord.
C'est pour ça que c'est...
Et l'éthiopathie, justement, est-ce que c'est une science qui est amenée à évoluer? Est-ce que justement, bientôt, on fera le crâne?
Bah, on fera le crâne. Disons que il faut.
J'arrive avec mes gros sabots.
Disons que les techniques crâniennes, si on arrive à le prouver, si on arrive à le démontrer, après nous on n'est pas fermé, mais il faut que ce soit démontré, il faut que ce soit objectivable, quoi. Mais par contre, pour des douleurs crâniennes, là, pour les céphalées, les migraines, si c'est de notre ressort, parce qu'il faut faire un diagnostic différentiel, si un médecin me l'envoie et que je sais que c'est pour moi, on peut réussir à. On a d'ailleurs de très très bons résultats sans en faire pour autant du crânien. Donc voilà. Et alors, pour continuer sur l'histoire d'évoluer, on a un organisme qui s'appelle l'ADE, c'est l'Association pour le développement de l'éthiopathie, qui propose chaque année des formations, c'est des formations continues, des formations professionnelles, parce qu'en tant que professionnel de soins, on se doit de continuer à se former, et parfois de faire des mises à jour. Et donc, chaque année, on a des propositions, qui sont obligatoires d'ailleurs, pour continuer à se former.
Pourquoi obligatoire ?
C'est la loi. C'est tout professionnel de santé doit continuer à se former au moins une fois par an.
D'accord.
Donc moi, là, l'année prochaine, je vais faire un diplôme interuniversitaire sur les urgences en terrain sportif. Mais
tu vas être obligé de recycler, faire une remise à jour tous les ans.
Je retrousse les manches et...
Et on en est toujours au niveau du soin en lui-même, de la consultation. Combien de temps en fait, ça va dépendre, j'imagine, en fonction de chaque pathologie, mais est-ce que ça se passe sur plusieurs séances ? Est-ce qu'on peut arriver à soigner dès la première séance ?
Alors, disons que moi, je ne fais pas de fausses promesses, donc je ne promets pas. Je dis aux patients, on verra. De toute manière, on sait très vite si on a des résultats ou pas. Les patients, à chaque fois, je leur dis, vous êtes mon meilleur juge. C'est eux qui sauront si j'ai eu du résultat ou pas, parce que c'est eux qui sont venus avec un problème. Donc, c'est comme ça qu'on sait. Parfois, une séance suffit. Parfois, il en faut deux, trois. Mais si je continue à faire des séances, c'est que je sais qu'il y a une amélioration. Donc, le but, c'est d'arriver à 100%. Mais parfois, on peut pas toujours réussir, mais ça, c'est le patient qui nous le dira. Mais ce qu'il faut, c'est connaître et reconnaître ce qu'il nous faut. Après, la séance en soi, elle, est assez rapide, puisque notre but, c'est pas de faire des papouilles de la tête aux pieds. On va directement là où il y a le souci. En fait, si vous voulez, le gros temps se passe au bureau. Et après, le petit plus, finalement, c'est la manipulation avec ce résultat derrière. Donc, la manipulation, en soi, c'est vraiment très court. Le patient, il n'a pas le temps de s'endormir sur la table.
Donc, en fait, le recueil des faits, l'enquête éthiopathique, tout ça, ça prend beaucoup plus de temps que la manipulation en elle-même.
En fait, une séance, c'est une demi-heure. Surtout au premier, parfois, il y a certains éthiopathes qui font un quart d'heure parce que, finalement, la réflexion se fait très vite. Ils savent très vite où aller et au final, il n'y a pas besoin de rester. On n'a pas besoin de faire une heure parce que parfois, plus longtemps on reste et finalement, si c'est pour ne pas savoir ce qu'on fait, si on a du mieux, on ne sait pas pourquoi. Si c'est pas mieux, on ne sait pas pourquoi. Si on fait trop de choses. Donc, on minimise nos actes pour savoir ce qui a été juste ou pas.
D'accord. On n'a pas posé la question, mais est-ce que dans le cadre de ton cursus de formation, il y a eu, j'imagine que vous êtes obligé de tester, de vous entraîner, vous faites de l'autotraitement ou...
Ah bah oui, pendant les 6 ans, on se manipule les uns les autres, forcément. Donc ce qui est bien, puisque je sais ce que je fais à mes patients, je connais ces manipulations-là, puisqu'on les a fait sur moi. Mais après, le truc, c'est qu'entre nous, on se manipule, mais on va bien. Donc c'est pas exactement pareil, il faut aller plus doux avec le patient, parce que lui il souffre, et à la fac nous on souffre pas, mais oui, on s'entraîne sur nous, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystisme, c'est de la mécanique.
Oh, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystique. De la mécanique pour toi quand tu conçois la chose, mais pour le... Alors j'imagine, oui, tu expliques, tu rappelles bien, mais le patient, quand il vient te voir, lui, il pense un petit peu à ce que tu... au miracle. Il cherche à être soulagé, et peu importe.
Ouais, les miracles, c'est le jeudi à 17h. Faut venir à cette heure-ci.
Juste.
Voilà. Non, disons que c'est... Ce qui est bien, c'est que la mécanique, il n'y a pas besoin d'y croire. Ça marche ou ça marche pas? On a été dedans ou pas? Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Hein, tant qu'on est cohérent, après le patient, lui, il vient avec ses espérances et ses croyances, et ça je lui enlève pas. Hein, j'empêcherai jamais un patient d'aller voir quelqu'un d'autre, parce que pas du tout. Moi, c'est au contraire, hein, si ça lui fait du bien, pourquoi pas. Hein.
Ouais, ça peut être un complément.
Oui, il n'y a pas de... Ça, oui, il n'y a aucun...
Ok. Eh bien, Baptiste, tu viens d'ouvrir ton cabinet. Tu m'as l'air assez jeune. C'était la suite logique après ce cursus de formation de travailler pour toi?
Eh bien, oui, les cabinets d'éthiopathie sont des cabinets libéraux en grande partie, donc ça, il n'y avait pas trop de questions à se poser. Après, moi, j'ai voulu m'installer après 7 ans d'études, hein, après le DU, j'ai voulu m'installer quand même assez vite, parce que nous, ce qui prime, c'est le bouche-à-oreille, c'est notre seul moyen de pub, hein. En soi, c'est pas vraiment de la pub, puisque c'est du bouche-à-oreille. Et donc au final, le fait d'ouvrir vite, il fallait mettre du charbon très tôt dans la machine, parce que le bouche-oreille, quand c'est bien, c'est toujours plus long. Et il faut savoir que comme il y a beaucoup d'ostéopathes, de kinés, de médecins, de thérapies différentes, du coup il y a beaucoup de concurrence. Mais ça a du bon, la concurrence, puisque ça nous force à avoir du résultat rapidement et qui dure dans le temps. Donc il faut être efficace. Ce qui fait une sélection naturelle au final, et sinon on ne mange pas. Donc moi, la concurrence, ça ne me dérange pas. Au contraire, je pense que ça a du bon.
Un challenge, une sorte de challenge.
Oui, voilà, c'est ça.
Ok. Et comment tes patients ont accueilli la discipline? Ils connaissaient, les gens connaissent l'éthiopathie en général, ou c'est encore quelque chose de relativement méconnu? Et du coup, ils viennent, mais à pas de velours.
Bah, disons que oui, après, faut jamais forcer les gens à venir. Hein. Ils viendront quand ils auront besoin. Ça, je m'inquiète pas là-dessus. Après, c'est vrai qu'ils ont des questions, donc c'est ça qui est bien, c'est que moi je peux leur répondre. Après, beaucoup sont très fidèles, puisque quand les gens sont déçus et qu'on réussit à les sortir de là, et ben ça les fidélise. Donc finalement, ça parle quand même assez vite. Et d'ailleurs, je les remercie, hein, parce qu'on rencontre que de belles personnes qui malheureusement doivent rester que des patients, mais on fait de très très belles rencontres, et finalement il y a forcément au début un petit peu un rebut des gens, parce que comme on est que 600 en France, même si ça fait 60 ans que ça existe, on est que 600, donc oui. C'est pas très connu, mais c'est pas grave, parce que justement, comme ils connaissent pas, ça frotte un peu à l'oreille et ça attire la curiosité. D'abord on a les curieux, après on a les convaincus.
Et justement, par rapport à tout ça, ça attire les oreilles, ça commence à se démocratiser, j'ai envie de dire. Par rapport au prix d'une consultation, est-ce que c'est une science qui coûte cher, qui coûte ça, ouais, est-ce que ça coûte
Eh bien, disons que le fait de ne pas être remboursé par la sécurité sociale nous rend cher. Mais d'un autre côté, quand vous payez 3 séances dans une année, et que c'était par rapport à une souffrance depuis 20 ans sur lequel vous preniez des anti-inflammatoires tous les mois, au final, ça revient à pas si cher que ça. Mais les honoraires sont libres, donc en France, ça peut aller de 50 à 70 euros environ. Après, ce qui compte, c'est, moi je dis à mes patients, le but c'est de ne pas vous revoir. C'est bizarre de dire ça, mais une fois comme c'est le résultat qui compte, et s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Donc voilà. Après, on est officiel, mais on n'est pas reconnu. Il y a à Paris, Nicolas Sarkozy, Alain Delon, toutes ces grandes têtes vont voir un éthiopathe. Donc il n'y a pas de.
Ok. Et justement, par rapport à ces remboursements, c'est cette prise en charge par les mutuelles, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer?
Oui, de plus en plus. On a, On a plus de 120 mutuelles qui nous remboursent. Après, c'est du cas par cas, parce que d'une mutuelle à l'autre, bah, elle rembourse ou pas. Et même dans une mutuelle qui rembourse, ça dépend du contrat du patient dans la mutuelle. Donc on ne peut pas savoir à l'avance. Mais d'un autre côté, plus ils reçoivent de factures et plus ils se mettent aussi à rembourser. Et chaque année ça change, et de manière positive. Donc ça, petit à petit on y va.
D'accord. Baptiste, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter? Par exemple, les gens qui sont avec nous cet après-midi sur les ondes de RDC, peut-être qu'ils ont envie de découvrir, d'en savoir un petit peu plus sur l'éthiopathie. Où est-ce qu'ils vont pouvoir te retrouver? Où est-ce qu'ils vont pouvoir te rencontrer?
Eh bien, moi j'ai deux cabinets, je suis à Sigogne et à Saint-Jean-d'Angély.
D'accord, et j'imagine qu'on va pouvoir retrouver toutes les informations concernant ces cabinets sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper ton nom et on va pouvoir retrouver toutes ces infos.
Oui, et puis on a un site, en fait nous sommes fédérés par un seul et même organisme, qui est l'Institut français d'éthiopathie. Donc ça aussi, c'est une autre différence avec les autres disciplines, c'est qu'on est fédéré et reconnu par un seul organisme. Et cet organisme-là, on le trouve sur le site internet ethiopathie.com. Donc il y a beaucoup de réponses à vos questions, mais il y a aussi l'annuaire de tous les éthiopathes de France qui sont inscrits au registre national des éthiopathes, qui est un gage de rigueur et d'efficacité, puisque ce sont les éthiopathes référencés qu'on fait les 6 années d'études.
Après, les auditeurs qui sont avec nous cet après-midi peuvent bien évidemment m'appeler directement à la radio et moi je vous donnerai directement le numéro de téléphone et l'adresse qui va bien. On l'a dit juste à l'instant, tu parlais de fédération. Est-ce que si tu ne fais pas partie de la fédération, tu peux être éthiopathe quand même?
Après, c'est aux personnes qui ne sont pas éthiopathes d'être honnêtes et de... on peut pas empêcher. Il y en a très très peu, enfin voire même pas, hein, des gens qui le sont pas. Hein.
Ah d'accord.
Mais bon, après, je vois pas trop l'intérêt. Ce serait surfer sur la vague. Ce serait des profiteurs, quoi. Donc des gens un peu. Ce serait malsain.
J'imagine. Est-ce qu'il t'arrive de présenter ton activité lors de salons bien-être ou salons santé ou pas du tout? C'est pas quelque chose qui t'intéresse?
Les salons bien-être, on est souvent sollicité, mais moi j'aime pas trop parce que justement je trouve que c'est pas... On rentre dans une communauté que j'apprécie, hein, mais qui n'est pas de notre sort.
On est plus dans le domaine de l'ésotérisme, peut-être, dans ce genre de...
L'ésotérisme et du bien-être. Et nous, on ne fait pas du bien-être. Je ne fais pas de massage. Donc ça, c'est un point important. Le massage, c'est les masseurs. C'est les kinés, d'ailleurs. Et donc nous, on est dans le soin. Donc c'est pour ça que... C'est pour ça que nous, on n'y va pas vraiment dans ces salons-là.
Même pas pour essayer de faire découvrir la discipline à un plus large public?
Alors après, il y a les facultés d'éthiopathie ont des partenariats avec notamment les salons baby, par exemple, où là, c'est hyper intéressant parce que pour les bébés, les otites, les reflux, les coliques, c'est des choses qui se soignent hyper vite parce que ça réagit très très vite. Et super, enfin, quand on a un pédiatre qui vous dit que le seul traitement c'est d'attendre qu'ils grandissent, bah, c'est un peu dommage. Donc dans ces salons-là, c'est intéressant. Les facultés sont aussi dans les salons de l'étudiant, notamment. Après, nous, on fait beaucoup de permanences sportives. Notamment avec ma consoeur de Cognac, on fait chaque année le tournoi national de badminton de Cognac, où on manipule bénévolement les participants, mais aussi le public. C'est une manière de faire découvrir. On va aussi parfois à la rencontre des ouvriers, des salariés dans les entreprises. On a fait la semaine fédérale de cyclotourisme à Cognac. Ou pareil, on a vu plus de 300 personnes. Ces choses-là, on peut.
Vous manipulez toujours à la demande du patient. Enfin, j'imagine, oui, de toute façon, vous n'avez pas le manipulé de force, mais ce que je veux dire, si le patient en reçoit le besoin ou qu'il a une douleur, on peut pas, je peux pas, moi, j'ai rien, il n'y a aucun intérêt que je vienne et que je demande à ce que tu me manipules si j'ai rien.
Bah, ça, c'est ce qu'on appelle de l'argent facile. C'est-à-dire que je peux très bien vous manipuler la cheville, ça empêchera pas forcément en sortant de louper la marche et de se tordre la cheville. Par contre, si vous tordez la cheville, là, ça m'intéresse.
Derrière ?
Eh bah, si vous tordez la cheville, moi,
si j'arrive. Vous manipulez la cheville et que je me tords la cheville derrière, ça vous intéresse ?
Bah, ce qui m'intéresse, c'est si vous, vous la tordez. Là, c'est pour moi. S'il y a une entorse, je soigne l'entorse. Mais c'est pas parce qu'on on a pas la prétention de faire de la prévention. S'il y a rien, il y a rien. Donc ça empêchera pas de se la tordre, c'est ça que je veux dire.
Ok.
Donc il faut avoir bobo pour soigner. Les bilans, les check-ups, ça je c'est pas pour nous.
Ouais, il y a pas de c'est pas en fait pour parler vulgairement, il y a pas de médecine spectacle quoi, on vient pas et on soigne pas les gens comme ça qui n'ont rien et on leur invente pas des choses et
Bah non, après il y en a qui viennent quand même avec rien, mais dans ce cas-là, si je manipule pas, je fais pas payer quoi. C'est il faut être honnête.
D'ailleurs, oui, ça justement par rapport aux gens qui se peut-être un petit peu hypochondriaques ou un truc comme ça, et qui viennent et qui ont des symptômes et qui sont plutôt d'ordre psychologique.
Anxiété, ouais, oui.
Et ça, tu arrives à le détecter tout de suite avec les questions, le questionnaire et la méthodologie.
Alors oui, par contre, après, là, on peut rentrer dans nos limites. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de psychologique, on ne fait pas de psychosomatique. Parfois, on peut faire du somatopsychique, c'est-à-dire que soma, ça veut dire corps. Donc, les personnes qui ont des troubles psychologiques, je les redirige, c'est pas pour moi. Par contre, s'ils viennent pour une dépression, mais qu'en plus, la personne, je sais pas moi, a mal au dos et du coup fait des insomnies, bon, bah, le mal au dos, ça c'est du corps, c'est du soma. Donc, moi, ça, je m'en charge. Et parfois, en réglant son mal de dos, bah, finalement, elle a plus d'insomnie, elle arrive à être mieux reposée, et parfois, elle arrive à sortir de sa dépression comme ça. Donc, on a enlevé la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si on veut. Mais ça marche pas à chaque fois. Il y a des personnes qui ont plus mal au dos et qui restent déprimées. Mais dans ce cas-là, je redirige. C'est pas pour moi.
D'accord, ok. Voilà. Et ça peut pas être. Alors là, c'est complètement. Ça peut pas être le mal de dos qui est l'origine de la dépression. C'est où c'est...
Bah, disons que des fois, le mal de dos peut être une aggravation
du phénomène de, du, ouais, de.
Bah, pour le patient, quoi. C'est la goutte d'eau, quoi. C'est un trop plein, et donc ça va pas l'aider à s'en sortir. Mais après, moi, je régis pas toutes ces choses qui vont être psychiques quoi. Donc okay. Par contre, déjà de leur expliquer, de les rassurer et de les soigner pour leurs maux de dos, bah parfois il y en a chez certains à qui ça suffit. Donc mais si ça suffit pas, et ben dans ce cas-là, on redirige.
On redirige à chaque fois. D'accord. J'imagine que c'est beaucoup de ton activité, ça, la redirection vers d'autres disciplines, vers d'autres. Je veux dire qu'une fois que ton travail est fait, une fois que tu as fait tous tes examens, tes questions sont posées et tout, bien sûr.
Pour les gens qui ont des problèmes psychologiques.
Oui, c'est ça.
Ah bah, ça dépend. C'est vraiment, ça dépend du patient et ça dépend de pourquoi.
Et l'autre question, et ça sera la dernière, est-ce que c'est pas une forme de protection de dire toujours je redirige, ça je peux pas, ça je... Est-ce que c'est pas une façon de se protéger finalement ?
Bah, disons que on se protège de manière concrète, c'est-à-dire que on ne soigne pas tout, on n'est pas des personnes qui prétendent faire tout et n'importe quoi, donc. Oui, forcément, je me protège de... C'est normal, quoi. Je veux dire, je connais les limites de mon métier, je connais mon métier, donc je sais, c'est une manière aussi de rassurer, parce que au final, on sait ce qu'on fait, je sais ce que je fais et pourquoi.
Oui, c'est ça.
Donc,
mais si je te pose la question, c'est parce que tu le rappelles souvent. Cette chose-là, que si c'est pas, je redirige, si je sais pas, je fais pas. Ah. Et c'est très bien, c'est très bien. Moi, je vois la chose comme quelque chose de très bon. C'est bien, justement, d'informer. Mais ce que je me. L'autre question. Ça amène la question de savoir justement est-ce que c'est pas une forme de protection et qui peut être un frein finalement à ton.
Peut-être, mais ces patients que je redirige, je sais même pas si c'est 5% de ma patientèle. Hein. C'est pas la grande majorité, au contraire. La plupart, ils savent ce qu'on soigne, donc ils savent pourquoi ils viennent. Et la plupart d'ailleurs, ils viennent avec tout un tas d'examens où il n'y a rien. Donc on sait que là, on est dans un. dans un patient qui a été encadré par, de manière classique, qui a été dans le parcours classique, et ils n'ont rien trouvé, donc je sais que là, c'est pour moi. La plupart, c'est ça. Donc en plus, ils savent pourquoi ils viennent, et ils savent ce que nous, on soigne, donc c'est vraiment une minorité de patients qu'on redirige. Mais si je le répète, c'est que je ne veux pas laisser mon patient tout seul. Il y en a beaucoup qui, lorsque des thérapeutes n'arrivent pas, eh ben, il n'y a plus rien derrière, quoi. Ils sont désemparés et ils sont... Et là, ça aide pas non plus, quoi. Donc,
ouais, c'est même pire.
Donc c'est pour ça que finalement, c'est une manière de les accompagner jusqu'au bout. Et après, je passe la main, mais faut pas les laisser seuls, les personnes qui souffrent.
On comprend bien. Baptiste, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi, d'avoir accepté de nous présenter ton activité, l'éthiopathie. Bien entendu, tu reviens quand tu veux nous reparler de celle-ci. Tu viendras peut-être nous parler de cours que tu donnes aussi. J'ai cru voir que tu donnais des cours, tu nous parlais de ça tout à l'heure, hein, c'est ça ?
Oui, des cours de clinique d'anatomie à la fac.
Donc à la rigueur, si un jour tu veux nous parler d'anatomie ou un truc comme ça, ben, n'hésite pas à revenir dans les studios de radiodiffusion charentaise. Nous le ferons avec plaisir. Samuel, est-ce que tu avais une question à poser à Baptiste ?
Non.
T'as tout compris ?
Oui, enfin pas tout, mais oui.
Et toi, l'éthiopathie, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses que ça pourrait être quelque chose qui pourrait te servir à l'avenir ? Est-ce que si un jour tu as une douleur que tu n'arrives pas à t'expliquer, tu aurais l'idée de dire « Ah, peut-être si je consultais un éthiopathe, peut-être qu'il pourrait, il saurait m'aider ou peut-être qu'il pourrait m'orienter ?»
Si ça peut marcher, après oui, il faut toujours essayer.
Mais pourquoi si ça peut marcher ? C'est-à-dire que tu crois qu'il y a une possibilité que ça ne fonctionne pas ?
Non, je pense pas. Je pense qu'il sait ce qu'il fait, donc...
Ok, merci beaucoup. Baptiste, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, quelque chose sur lequel tu aurais voulu que l'on appuie, quelque chose que l'on reprécise ? On l'a dit, pour retrouver tes coordonnées, ça se passe sur le net essentiellement, ou alors les gens nous appellent à la radio. On a dit aussi que tu étais installé du côté de Cigogne, comme ça donne quand même de bonnes indications aux gens, ils vont pouvoir te retrouver facilement. À Cigogne et autre part aussi, tu nous as dit du côté...
Saint-Jean-d'Angély,
c'est en Charente-Maritime ça.
Oui.
Voilà. Baptiste, merci à toi.
Merci de m'avoir invité, Yann.
Tu reviens quand tu veux, on l'a dit. Mesdames, messieurs, merci à vous d'avoir été avec nous tout au long de ce bel après-midi du 26 octobre 2019. Tout de suite, c'est Albert. Je vais vous laisser en compagnie d'Albert. Albert, vous le connaissez tous, c'est notre ordinateur. Il va vous jouer de la musique jusqu'à 16h. Nous, on se retrouvera entre 16h40 et 17h et 18h ce soir pour la rediff de votre émission À la bonne franquette. On se retrouve également demain matin en tout début de matinée, entre 10h et midi, pour votre émission Ambiance Accordéon. Mesdames, messieurs, merci à tous et toutes d'avoir été avec nous tout au long de cet après-midi. On rappelle que vous nous écoutez au 93.4 et au 92.5 sur la bande FM, jusqu'à 7 départements autour d'Angoulême. D'autres nous écoutent aussi sur Internet et ils le font au www.radio-rdcfm.com. Mesdames, messieurs, au revoir et à très vite sur les ondes de RDC.